La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et sinon pas style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue. Plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
On a perdu Pauline.
Allez, on a perdu Pauline. Mais non, elle est là. Bonjour, bienvenue dans cette 46e émission de Par le bout de la lorgnette. Alors attention, une émission interdite aux mineurs, car nous allons parler aujourd'hui de littérature érotique. Salut Pauline.
Salut tout le monde.
Si tu peux éviter de parler la bouche pleine, s'il te plaît, dans cette émission sur un thème comme celui-là. Salut Valérie, grande spécialiste de la littérature érotique.
Attends, j'avale et je dis bonjour.
Bonjour.
Salut. Non mais c'est pas possible. Hein. Les gars, fais-nous quelque chose. Dis-nous bonjour.
Salut
normalement. Ah, merci. Salut Héloïse.
Hello.
Alors Héloïse, j'ai dit à ta maman, écoute-nous à midi parce qu'on a une émission super intéressante. Donc attention.
Ah oui, mais elle doit être derrière, derrière son poste.
Voilà, derrière son poste, c'est ça. bon, on va essayer de parler de littérature érotique et de ne pas être trop cru. D'ailleurs, on a fait une belle introduction très poétique. On va essayer de continuer comme ça. Oh ben tiens, en parlant de poésie,
d'introduction
et de poésie, on va laisser parler Valérie pour commencer cette émission.
Eh bien, merci de me laisser la parole. Tu introduis toujours très bien, Ludovic, je tenais à te le dire.
Merci, c'est gentil.
Bien.
Tu n'es pas la première à me le dire.
C'est vrai.
Oui.
Mais je parlais de...
Oui.
Tu me donnais la parole.
Oui, oui, voilà. Mais c'est ça. D'accord. Absolument.
Alors, on va parler de littérature érotique, mais je ne sais pas si on peut classer mon livre dans littérature et érotique, tout simplement. Donc, retour à fin 2014, notre auteur, Mademoiselle Hilton, est diplômée d'Oxford. Elle est ex-étudiante en histoire de l'art. Elle a un profil un peu intello, fan de Houellebecq et d'histoire d'eau. Alors ça, c'est un mélange que j'ai un peu de mal à comprendre. Mais bon, bref, elle vient de finir une biographie d'Elisabeth Ier. Tout va bien pour elle. Sauf que là, elle n'a plus rien à faire. Hein. Donc, elle ressort de son tiroir un roman érotique que son agent lui avait suggéré d'écrire à l'époque, mais qu'il avait détesté, jugé trop cru, dégoûtant, et tout un tas d'autres colibrés. J'ai du mal à laver
colibré.
Oui. Oui, c'est un mélange entre colibri et colibé.
C'est fait, ça.
C'est un oiseau moqueur.
Voilà.
Donc, notre auteur, Lisa Hilton, décide de transformer son manuscrit et petit à petit, en le transformant sur un thriller. Donc, on est parti du livre érotique pour le transformer en thriller. Elle l'envoie à plusieurs éditeurs. Ben, elle se fait recaler, refus. Et en fait, elle a réussi, par le biais d'une amie qui connaissait quelqu'un, qui avait un cousin qui connaissait quelqu'un, à faire lire son livre, donc son, aux éditions Zafre. Alors, les filles, hein, les pros. Non, voilà.
Non, je ne connais pas. Jamais entendu.
C'est anglais, apparemment, voilà. Et donc, la personne qui l'a lu alors, a dit, oh là, j'ai lu ça nulle part, j'ai appelé Lisa et je crois qu'en une semaine, nous avions un deal. Bien. En France, c'est Robert Laffont qui prend Paris sur cette collection, des éditions Bête Noire. La Baronne des Filles, ça vous parle. Et donc, il achète une trilogie. Donc, par chance, j'avais que le premier exemplaire dans mes mains. Attention, quatrième de couverture, roulement de tambour. Ce roman a été traduit dans 35 pays, déjà en cours d'adaptation par la productrice de Millennium. Il a signé la scénariste de La Fille du Train, Maestra, et le premier volet d'une trilogie noire et érotique. Là, déjà, ça claque quand même. Quand tu lis ça, tu te dis, waouh.
Ou ça fait peur.
Où ça fait peur.
Ça peut angoisser.
Voilà, donc l'histoire, c'est l'histoire de Judith Raleigh. Elle est une jeune fille anglaise, ambitieuse, intelligente, avec toujours un coup d'avance sur le lecteur. Elle est impitoyable, sans culpabilité et aimant le sexe. Oui, parce qu'elle aime le sexe, point. Elle est considérée comme une stagiaire dans la salle des ventes où elle travaille. Elle est ric-rac un peu financièrement et tadam, elle va dans le métro et elle rencontre une ancienne connaissance du collège qui lui propose de venir arrondir ses fins de mois dans un bar à escorte. Au même moment, elle découvre que son patron essaie de monter une arnaque au faux tableau. Et au lieu de faire comme tout bon stagiaire, fermer sa bouche, elle l'ouvre. Et donc, elle est virée. Elle augmente sa présence comme escorte et part en virée avec son ami et son pigeon sur la Côte d'Azur. Et bim bam, il meurt. Commence le thriller.
Qui est le pigeon ?
Le pigeon, voilà,
d'accord.
Qui était un homme, en fait.
Oui.
Et en fait, il y a de l'arnaque, du pognon, du meurtre. Donc, c'est un thriller. Si on analyse un peu le livre, on va se poser la question, comment être une femme libérée dans cette société qui nous étouffe ? Voilà, ça, c'est le côté, si on a envie de réfléchir au livre. Mais me diriez-vous, on ne devait pas parler de cul dans cette émission ?
Oui.
Alors oui, effectivement, notre escorte tueuse arnaqueuse, effectivement, lorsqu'elle a fini le boulot, elle baise. Vous, vous allez faire un jogging, vous allez faire une séance de yoga. On n'a pas le droit d'utiliser ces mots-là ?
Avec les morts ?
Non, avec avant.
Voilà, non, on était surpris.
Attends, laisse-moi réfléchir, avec les morts. Non, il n'y a pas eu de morts, il y a eu des gros. Non,
mais t'as dit que c'était une tueuse et qu'elle boulot, qu'elle aimait le sexe. Donc
voilà.
Du coup...
Non, c'était...
Est-ce que elle utilise son matériel de travail
non.
pour le sexe ?
Non, elle cède de...
J'ai eu le même problème qu'Héloïse en t'entendant dire cette phrase.
Ouais. Non, il n'y a pas de ça. En fait, je le mets en avant, mais sur la totalité du livre, je pense qu'il y a 3 vraies scènes de sexe. Donc, autant dire, c'est rien de... C'est ma mère qui m'appelle sur mon téléphone. Qu'est-ce que t'as dit ?
Allez, mets-la à l'antenne, mets-la au parleur.
Donc voilà, dans le livre, on parle.
Alors précise que ton livre est très gros parce que tu dis qu'il n'y a que 3 scènes, s'il fait 20 pages, c'est énorme.
Non, le livre, il fait, j'en sais rien, il est presque 400 pages. Ouais. Mais il y a vraiment 3 soirées.
3 scènes de 100 pages.
Voilà, c'est ça. Non, il y a 3 soirées en fait où elle va dans un club. Alors ce qui lui plaît, elle, c'est l'échangisme, tendance sadomasochisme. Mais honnêtement, c'est crade, c'est glauque, ces passages-là. Mais c'est pas, on n'est pas du tout sur un livre érotique, et on n'est pas sur du gros sexe.
Et alors, Héloïse, tu t'es trompée
C'est quand même marqué derrière que c'est
marqué.
Érotique.
Ah.
C'est marqué derrière.
D'accord. Et on en a parlé tel quel dans les médias, etc. Ouais. Donc c'est considéré comme ça.
D'accord.
En fait, et si on le compare à celui dont on avait dit qu'on ne parlait pas, mais dont tout le monde veut qu'on parle, 50 nuances degrés, a priori, la seule comparaison, c'est qu'il y a du sexe un peu dedans. Ça s'arrête là.
Est-ce que les scènes de sexe servent l'intrigue?
Absolument
ou c'est
pas.
Gratuit.
C'est gratuit.
Mmh,
et
c'est
question,
gratuit.
Est-ce que l'intrigue, en tant que le livre en tant que polar, est-ce que toi, ça t'a plu ou...
Alors moi,
c'est à la limite, ouais. Tu peux dire, on laisse de côté l'érotique, il y en a un peu, c'est chouette. Mmh. Tu peux lire comme un polar. Toi,
oui.
Ça t'a plu?
Alors moi, qui ne suis pas très polar, finalement, je me suis laissée embarquer parce que j'aimais bien le milieu dans lequel ça a évolué. Parce que ça a évolué dans le milieu de l'art et des trafics d'art, donc c'était assez sympa. Il y avait pas mal de voyages. Bon, après, il y avait de gros côtés jet set, beaucoup de pognon. Moins bien. Je pense qu'il y a au moins 500 marques de vêtements, de fringues, de maquillage qui sont citées dedans. Donc je connais tout, hein. Gucci, Chanel, je connais tout, je suis au point. Prada et compagnie. Mais après, ouais, il y a une intrigue sympa quand même. C'est bien ficelé comme polar. Après, je pense qu'un amateur de polar, comme on a eu Agnès qui était fan, par exemple, qui était déjà venue nous en parler, je pense qu'elle va trouver que c'est pas suffisant, mais c'est... Ouais, c'est distrayant.
Bon, combien de pages as-tu lu de ce livre ?
Non, j'ai lu les 371, j'ai été au bout, j'ai fait une insomnie lundi soir, donc ça a meublé, c'était super. C'était super, mais ça a pas, voilà, j'ai pas non plus eu peur, c'est pas un thriller psycho.
Un thriller.
C'est un truc qui se fout l'astrouille.
Ouais, c'est ça.
Et il y a une suite alors ?
Il va y avoir deux suites.
Que tu ne liras pas. Non, si c'est
non.
300
tu
pages
vois,
chaque,
je me suis posé suite, la question, je dis ça va être adapté au cinéma, alors je ne paierai pas pour aller le voir au ciné. Peut-être que le jour où ça sortira à la télé, si ça passe en vidéo à la demande, peut-être je le regarderai, mais ça le mérite d'être. C'était pas désagréable, mais...
Sans passionné, en tout cas, bof.
Voilà, c'est vrai qu'à la limite, les scènes de sexe peuvent émoustiller le lecteur pour rajouter une petite touche, mais c'est pas...
Quel âge, le lecteur? Minimum.
Bah, je pense qu'un mineur va peut-être s'ennuyer sur tout ce qui est oh là là, trafic de tableaux, mafia italienne.
Mais, il va aller direct aux scènes.
Direct aux scènes de sexe. Donc, comme il n'y en a pas énorme, il vaut mieux qu'il lise Jean Tellet avec Héloïse.
Oui, c'est interdit ou pas aux mineurs ? Est-ce qu'il y a des interdictions pour des romans sur les mineurs ? Ça doit exister, j'imagine.
Non.
Non, ça n'existe
pas.
Non,
il n'y a pas comme à la télé les petits trucs moins de 12 ou des trucs comme ça.
Comme sur les jeux vidéo, non, c'est pas. Après, quand tu regardes là sur ton BDQ, par exemple, il y a une petite annonce. Une petite phrase.
On vend partout.
Interdit.
Il y a marqué bandé dessiné.
De moins de 18 ans, mais ça, c'est plus de l'humour. C'est pas.
Et
en effet, les livres, c'est pas obligé de le mettre dessus.
Sur les mangas sexuels, genre les hentai ou les yaoi, les trucs comme ça, tu as un truc. Ce livre peut. ne peut pas convenir d'accord. à un jeune public. Tu as cette précision.
Mais pas sur les romans.
Sur les romans, non, je pense
non,
pas.
Non, mais après, généralement, le libraire est là pour ça aussi. De dire, oulala, non, c'est peut-être.
Oui, mais
pas
maintenant,
pour...
avec Internet, malheureusement.
Oui, mais bon, ça arrive
pour les gens qui n'ont pas comme
nous. Quand on te demande, c'est pour ma fille de 11 ans, tu leur dis, non, ça ne va pas convenir.
Voilà. D'accord.
D'ailleurs, à la bibliothèque Amanda, si tu veux des livres érotiques ou autres, ils sont en réserve, il te faut les demander au monsieur.
Ah ouais.
Bonjour, s'il vous plaît, je voudrais le livre qui porte ce numéro. Ah, le Kama Sutra, je vais vous le chercher. Donc voilà, ça. Ah,
déjà,
ça
t'as la honte qui... de demander, tu oses pas.
Oh, mais c'est pas une honte. Hein.
Ah, tu vas nous raconter tout
ça. Ah, bon, mais on va passer.
Du coup, on pourrait donner la parole à Pauline.
Exactement.
Ça a l'air intéressant.
Oui. Merci Valérie, redis-nous
alors,
auteur, titre, édition.
Maestra, le titre c'est Lisa Hilton et c'est les éditions La Bête Noire de chez Robert Laffont.
Merci Valérie.
Avec plaisir.
Juste un mot, oui. Ton petit spectacle samedi dernier, c'est bien passé ?
À Au Mans au Brac ?
Oui, parce qu'on l'a annoncé pendant des semaines et des semaines, ça serait bien de faire un petit retour.
Vous avez été super, vous l'avez bien annoncé, donc c'est la soirée de clôture du festival Contes et Rencontres, j'ai pu faire l'apéro conte avec Noé et Ophélie, de superbes conteurs, et ça s'est très bien passé, et a priori on n'a pas reçu de menaces de mort, ni d'interdiction.
Il paraît qu'il y a eu une eau là.
Alors faut pas exagérer, je pense qu'il y a 2-3 personnes qui l'ont applaudi.
Ouais. D'accord, bah c'est déjà bien.
Les gens sont menteurs.
Ok.
Alors, c'était très sympa et merci à ceux qui sont venus, qui nous ont écoutés. C'était super.
C'était un plaisir.
Voilà.
Oui. Avant de parler de ton livre, alors raconte-nous un peu cette histoire, cette anecdote à la bibliothèque.
Eh ben, c'est... Demain, ça va avec ma chronique. Donc
ah,
ça va venir
parfait.
Deux ans pour
ça va venir tout seul. On te laisse. Qu'est-ce que tu nous proposes
Alors moi, ce que j'ai lu, c'est Before de Anna Todd. Before, sous-titre After, parce que ça parlera peut-être un peu plus aux gens after.
Alors before qui veut dire avant.
Voilà.
After qui veut dire après.
Après, voilà. Le titre.
Ah, on a des auditeurs qui ne parlent pas anglais. Hein.
Je vais encore plus vous emballer avec l'histoire de l'écriture, vous allez voir. C'est un livre qui a été écrit en 2013. C'est Anna Todd, donc il a écrit sur son smartphone. Voilà. Et
déjà, ça fait rêver.
Ouais, ça fait rêver. Et qu'elle a publié sur une plateforme qui s'appelle Wattpad, alors qu'on publie a priori bon, des textes, des poèmes, a priori des romans. Et en fait, ce texte a été téléchargé plus d'un milliard de fois. Ça me paraît absolument hallucinant, mais c'est ce que j'ai trouvé. Donc
un habitant sur 6.
Ouais, c'est du délire. Je pense que ça a été retéléchargé sûrement aussi.
Oui. Tu m'as supprimé le fichier, mince. Je retélécharge, allez.
Ouais, c'est ça. Donc évidemment, des éditeurs se sont jetés dessus. En France, il a été très vite vendu à 200 000 exemplaires. Quelques mois après avoir été commercialisé, il y avait 200 000 exemplaires vendus. Bon, c'est du délire. Bref. Donc je pense que ça, c'est un peu le livre que personne n'avait envie de lire. Mais moi, je sais que je suis plutôt bon public, j'aime un peu tout. Donc je me suis dit, je vais y aller. Puis il fallait bien, genre, 50 nuances de grès. Bon, t'étais pas loin, peut-être, avec ton... Enfin, on pensait que tu serais pas loin avec ton maestra.
Non, mais il fallait parler, effectivement, de ce phénomène de la littérature érotique.
Voilà.
Chiclite ou alors
Chiclite, c'est même... Ouais,
c'est pas
plutôt
exactement
du momi porn.
Ça.
Chiclite, c'est le truc genre l'accro du shopping, tu vois, ou
d'accord.
Sex and the City.
Ah, oui.
Elles en parlent, mais il n'y a pas de scène et compagnie, quoi. Donc, que
ouais.
Là, c'est à destination... de jeunes femmes qui connaissent le sexe. Quoi.
D'accord.
Mommy porn, ça s'appelle ?
Mommy porn pour les mamans qui veulent lire du porn.
Ah.
Très simplement.
Les cougars, quoi.
Pas
les cougars.
Les
milfs. C'est
non,
les milfs.
Non, les milfs, ça pas dire ça.
Toutes les mamans sont
pas non. Oui, c'est vrai. Autant pour moi.
Salut Audrey.
Oh, c'est pas encore une mille, faudrait. Ah, il faut atteindre un certain âge. Ah non.
Enfin bref, voilà. Et c'est vraiment un phénomène littéraire. Il y a énormément de ventes. Depuis 50 nuances de gris, c'est quelque chose qui a été un peu décomplexé, toute cette littérature. Et il y a beaucoup de ventes, effectivement, de ce genre de littérature. Donc c'était bien d'en parler.
Enfin,
ouais.
Un milliard de téléchargements, c'est quand même hallucinant.
Ouais. C'est délirant. Et du coup, donc moi, ce que j'ai lu, c'est pas la première série, parce que donc il y a une série des premiers tomes qui sont l'histoire d'une jeune fille qui a tout pour elle, elle va réussir sa vie, elle a un chéri adoré, puis qui rencontre un peu le bad boy qui va changer tout ça. Donc moi, j'ai lu, ça c'est After, moi j'ai lu Before, donc la vision du fameux bad boy qui s'appelle Hardin. Voilà.
Sean Hardin.
Hardin tout court.
Ah d'accord, c'est son prénom.
Ouais, c'est son prénom.
Pourquoi Sean ?
Sarr.
Non, j'ai cru entendre ça, mais pardon.
Ah
non.
D'accord.
Un petit cheucheux.
Ouais.
Donc franchement, en lisant, je me suis dit, c'est nul, c'est bateau, les personnages, il n'y a rien, l'histoire d'Ardine, elle fait... Parce que bon, évidemment, il a un passif super lourd, et puis alors toute sa vie, elle est en une page et demie, tous les malheurs du monde, enfin bon, qui explique comment il est devenu un monstre avec les femmes, enfin bon, l'horreur totale, c'est... Voilà, tous les soirs, je me dis, ah, je vais lire ça, c'est pas bien, c'est pas bien... L'aspect érotique, bon, il y a 2-3 scènes où on devine une fellation. Il y a lui, il imagine des petites choses. Bon, il lui tripote les seins. Bon, c'est pas, c'est pas porno du tout. Il y a des petites scènes, voilà, un peu imaginées beaucoup. Bref, tout le long, je me suis dit c'est pas génial. Et là, je ferme le bouquin. Ça se finit pas. Et je me dis, bah, merde, j'ai qu'une envie, c'est de lire la suite.
Ah, t'as été prise au piège.
Voilà, dont ma fameuse aventure à la bibliothèque. Donc, je suis allée à la bibliothèque de Mende, j'ai osé. Et là, je suis passée dans le rayon plusieurs fois pour qu'on ne me voie pas. Je dois un coup d'œil sur le côté.
Mais c'était pas dans la réserve, quand même.
Non, alors. Pas du tout, oui, en réserve. Ça va, c'est et en fait, ils sont tous empruntés.
Ah.
Et alors, j'ai demandé à le réserver. Pfff. Je rêve. Pas possible, c'est déjà réservé dans la limite.
Sérieux ?
En fait, il y a, je pense, une limite de réservation. En général, c'est vrai que dans les bibliothèques, on ne réserve pas 50 000 personnes à l'avance. Ouais. Et du coup, bah, pas possible. Donc, je ne sais pas la suite. Je suis très déçue.
Comment vas-tu faire ?
Je pense que ça va me passer.
Oh, tu
mais
peux
voilà.
Trouver des spoilers sur Internet. Hein,
oui, peut-être que oui. Je...
Suite, before. Le moteur de recherche ne va pas comprendre. Suite avant, quoi.
Donc bon, très franchement, c'est pas du tout un livre que je conseille à tout le monde, loin de là. Je pense que je le conseille à des femmes déjà. Je pense que c'est plutôt un livre qui est clairement un livre qui a été écrit pour les femmes, qui ont envie un peu de se détendre, de lire un truc hyper facile à lire et qui va un peu les accrocher. Il y a un peu d'ambiance, ça bouge. Et mais voilà, c'est pas si vous voulez lire de la bonne littérature ou une histoire bien construite avec des personnages touchants ou je ne sais quoi, oubliez.
Donc il y en a deux après ou il y en a plus ? Il y en a combien ? C'est une trilogie ?
Alors à celui-là, je crois qu'il y en a un après.
D'accord.
Mais le côté l'histoire de la fille, il y a 5 tomes.
Ah oui.
Donc ouf. Ouais, si vous vous lancez, faut avoir envie. Hein.
J'aimerais rebondir sur ce que tu as dit en début où tu avais un peu peur que ça soit plat. J'ai l'impression que souvent dans la littérature érotique, on a tendance à tomber dans le cucu. Est-ce que j'ai
alors
tort?
En fait, ça dépend vraiment parce que là, on va parler de choses qui sont pas du tout cucu par la suite. Et mais c'est vrai que certains auteurs et certaines maisons d'édition poussent les auteurs à écrire des choses vraiment faciles, quoi.
À l'eau de rose, un peu édulcorée.
Mais Harlequin,
avec un peu de sexe.
Ça existe depuis des années et des années. Mmh. Et c'est vrai que c'est toujours le même schéma et c'est des choses qui marchent. C'est des millions de ventes.
C'est qu'à la page 110, les fleurs, tu vois, tu peux savoir page par page ce qui se passe chez Harlequin, tu vois.
Clairement. Mais après, on peut aussi, et c'est tout le but de cette émission, on peut ne pas tomber dans le cucu dans la littérature érotique et on peut faire plein de choses très originales.
Voilà. Eh bien, tu vas nous en parler justement, Héloïse.
Oui, alors là, je vais parler d'un texte un peu spécial. C'est un tout petit texte, un tout petit livre paru aux éditions Les Échappées.
Elle se garde les petits livres. C'est vous clair. Avez des 400 pages. C'est ça. Elle est énorme, c'était Héloïse.
L'auteur, c'est Camille Emmanuel. Et le titre, donc, c'est « Lettre à celle qui lit mes romances érotiques et qui devrait arrêter tout de suite ».
Ça, c'est voilà. Pour Pauline et moi qui avons lu des... Mais toi, t'as pas trop aimé.
Voilà, mais ouais, j'ai fait exprès de vous tendre un piège. Et donc là, en fait, il ne s'agit pas d'un texte érotique, mais d'une analyse vraiment intéressante vue de l'intérieur de l'industrie des romans érotiques en vogue et appelée justement les mommy porn, donc traduction porno pour maman.
Et la young adult aussi.
Oui, effectivement. Mommy
porn, c'est plutôt pour les mamans de enfin, voilà, 40-50 ans, et t'as le genre young adult où c'est des nanas de 18 ans, machin, dans la vingtaine, qui vivent des romans érotiques.
Et
il n'y a jamais pour les hommes, parce qu'on parle beaucoup de femmes dans cette émission. Mais...
Bah, SAS, par exemple.
San Antonio, ouais, carrément.
Voilà, San Antonio.
Oui, mais c'est très cliché, tout
les
ça.
Les daddy... comment on appelle ça comment,
daddy
du coup
porn.
Daddy porn.
Daddy porn.
Voilà.
Donc, l'auteur, donc, c'est Camille Emmanuel. C'est une grande spécialiste en érotisme, en sexe, en théorie du genre. Elle a publié plusieurs études et ouvrages sur le sujet. Mais il y a quelques années, en fait, elle a écrit une dizaine de mommy porn pour raisons financières, tout simplement. Elle était, elle avait des problèmes d'argent et elle est tombée sur une annonce. En fait, on lui proposait 5000 euros par livre, voilà, pour écrire une série. Donc, elle raconte en fait toute cette période-là de sa vie, l'envers du décor en fait de cette écriture-là, qui a fini par la débecter au plus haut point. Et donc, elle nous explique pourquoi. Voilà. Donc, il y a une trame bien précise, c'est très rigide. Tout d'abord, elle doit se choisir un pseudo, elle doit se faire passer pour une auteure américaine, donc un nom à consonance américaine. Elle doit jouer le jeu même dans ses remerciements où elle doit angliciser le nom de ses amis, etc. Et elle doit être, voilà, c'est comme si c'était une auteure américaine, une jeune auteure, dynamique, etc. Et ça me fait penser effectivement à Anatode ou à ton auteur. On ne sait pas si c'est vrai ou pas, du coup. Ensuite, elle doit réaliser tout d'abord un tableau Excel avec les personnages et leurs spécificités, donc âge, date de naissance, modèle physique, caractéristiques principales, caractère, projet de vie. Elle doit se tenir à ce tableau, mais vraiment mot pour mot, durant toute la série des 4 tomes. Donc si elle diverge un peu, on la rappelle alors, son éditrice la rappelle alors.
Et elle donne des exemples, tu vois, où par exemple, elle dit que la nana à un moment est jalouse. Donc, mon héroïne est jalouse, machin. Et l'éditrice lui envoie un message. Vous aviez dit qu'elle était pas jalouse. Enlevez ça. Elle n'a pas le droit de changer une seule fois. Pas d'évolution. Le personnage reste le même.
C'est assez barbare. Comme,
c'est quoi son... Elle a choisi quel nom d'américaine?
Elle le dit pas.
Elle peut pas le dire. Je pense que le contrat fait qu'elle peut pas dévoiler son nom.
Donc, en fait, on lui commande des séries de 4 tomes, donc selon une trame bien spécifique. Donc, le premier tome, la rencontre. Le deuxième tome, le voyage avec une destination de luxe. Le troisième tome, ils font un test IVG et donc, du coup, peuvent pratiquer le sexe sans protection. Donc, très romantique. Et donc, le quatrième tome, évidemment, le mariage. Voilà.
Et la rupture, non, on l'a pas?
Eh non.
Jamais.
Ah, ça reste un peu haut de rose, alors.
Dans le schéma, il s'agit toujours d'une jeune femme entre 19 et 20 ans. L'homme ne doit pas être âgé de plus de 10 ans. Ils sont tous les deux blancs, voire légèrement bronzés. Lui, il est milliardaire.
Attends, comment ça, de plus
de 10 ans? 10 ans de plus qu'elle.
Ah, merci.
De 10 ans, oui, 10 ans d'écart, excuse-moi.
Oui,
ouais.
Parce que là...
Elle ne peut pas devenir jalouse, mais par contre...
Elle peut être, mais non.
Voilà. Donc lui, il est milliardaire. Il a réussi tout seul dans sa vie. Il a 35 ans, mais il est milliardaire. Sans
normal,
tout
énorme.
Tous les gens depuis de 35 ans. Hein,
easy, quoi. Connu.
Elle est issue de classe moyenne et rêve d'une carrière artistique.
Oh, que c'est mauvais!
Alors, tout doit être glamour, luxueux, pas de scène de masturbation, bah en non. aucun cas, pas d'initiative de la part de la jeune fille. Par exemple, un exemple qui m'a... Tout est assez révoltant et en même temps, c'est très drôle comme elle le raconte. Mais un jour, Camille Emmanuel, quand elle écrit son livre, elle décide de faire organiser un petit jeu à son héroïne pour son milliardaire. Donc, l'héroïne organise un petit jeu de piste dans New York qui aboutit à une chambre d'hôtel. Voilà, quelque chose d'assez sympa. Et l'éditrice lui répond, mais non, ça ne se fait pas du tout. Il faut que ce soit lui qui prenne l'initiative et que ce soit lui qui paye la chambre d'hôtel. Voilà, exactement.
Elle n'a pas le droit de dire, je vais organiser un jeu, tu vois, de...
Mais quelle est cette maison d'édition, là?
Alors, elle n'a pas le droit de le dire, on ne sait pas.
Oui, mais toi, tu le sais, t'es libraire, tu connais.
Non, il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup.
Il y en a trop pour savoir, en fait.
Ah bon?
Parce que là, on parle souvent dans les médias d'after, before, 50 nuances et compagnie, parce que ça a eu énormément de succès. Mais en librairie, on a vu ça défiler et le rayon déborde, quoi. Et t'en as un par mois, même plus, quoi.
D'accord. C'est quoi le premier tome, le concept, tu disais, sur le tableau Excel?
Alors, le premier tome, c'est la rencontre. Le deuxième tome, voyage.
C'est ça, Pauline, toi, c'était la rencontre, le premier tome?
Moi, c'est pas le départ de... C'est pas le premier livre, donc c'est un peu particulier. Je connais pas le schéma du côté de la fille.
C'est peut-être... Ah oui, c'est révoltant un peu, oui.
Voilà, après, deuxième exemple assez révoltant aussi. Un jour, donc, Camille Emmanuel fait offrir au père de l'héroïne par le milliardaire une édition ancienne d'un livre de Colette. Et donc l'éditrice lui répond, ah non, mais ça va pas, c'est bizarre, Colette était bisexuelle. Alors ça va loin quand même, ça va très loin dans la censure, je trouve. Donc après, évidemment, seuls les hétéros sont représentés, à part des fois et rarement l'héroïne a un meilleur ami.
Oui, son meilleur ami gay.
Le truc cliché, quoi.
Donc tout ceci semble assez ridicule et on prend ce que dit Camille Emmanuel, c'est qu'on prend un peu les lectrices pour des potiches. On dépeint un monde mais empli de stéréotypes, c'est incroyable, c'est le conte de fées absolument neuneux et cucu dont tu parlais, Ludo. Et on peut pas sortir des clous, tout doit être luxueux, il faut qu'elle place des marques, des voyages et destinations absolument dans tous les livres. Il y a des orgasmes à chaque relation sexuelle.
Comme dans la vraie vie.
La femme ne prend aucune initiative. Et elle aspire simplement à aimer son milliardaire qui la couvre de cadeaux. Et elle finit toujours par accepter tout. Enfin, c'est assez révoltant.
C'est un témoignage, c'est ouais, pas romancé, c'est un vrai témoignage.
C'est un vrai témoignage sur l'envers de cette littérature-là, ouais. Et c'est super intéressant, et le constat est assez affligeant, parce que finalement, toute cette littérature, c'était un bon signe, c'est-à-dire que les femmes assumaient enfin de se tourner, de lire de la littérature érotique, c'était un milieu qui était plutôt réservé aux hommes jusqu'à présent. Et donc, c'était chouette, cette initiative-là. Mais finalement, on retombe quand même dans des, dans des clichés.
Elle a raté, en fait, cette révolution. Quoi, ouais. Qu'on pensait engager avec les femmes vont lire de la littérature érotique. Elles peuvent entrer dans une librairie et dire « Bonjour, je voudrais un livre de littérature érotique » sans en avoir honte. Et en fait, tout a été raté, quoi. Et Camille Emmanuel, c'est intéressant parce qu'elle, elle se place au-dessus de tout ça. Et en plus, elle nomme sa lectrice Manon. Donc à chaque fois, elle nous dit « Et toi, Manon, tu penses que, c'est normal tout ça et qu'on présente qu'une société hétéronormée ?» une petite jeune fille qui, comme les gamines de 10 ans et demi, rêve qu'elles vont vivre heureuses avec un seul garçon.
Oui, non, mais c'est que c'est triste, que des clichés. En fait, ça on rend revient tout ça très dans triste. Dans les normes, enfin, pas dans les normes, mais dans les clichés, dans les stéréotypes, et c'est assez affligeant, je trouve.
Mais est-ce que du coup aussi, parce que moi j'en avais parlé, j'ai une amie pour l'anecdote qui a acheté 50 nuances degrés quand c'était sorti, c'est elle qui me les avait passées après, et elle m'avait avoué qu'en fait c'était le premier livre qu'elle rachetait depuis qu'elle avait fini ses études 20 ans plus tôt. Est-ce que finalement cette manne littéraire, c'est pas aussi fait pour des gens qui lisent peu ou qui vraiment ont pas envie de se réfléchir en lisant? Est-ce qu'il n'y a pas vraiment un public qui n'aurait pas franchi le seuil justement de la librairie qui va venir pour cette littérature?
Pourquoi pas?
Ce que je trouve dangereux, tu vois, c'est qu'il y a c'est majoritairement en fait des ados qui lisent ça, et que c'est vrai que mine de rien, parce que elles les achètent par dizaines sur internet, c'est 1,99€, t'achètes un tome, voilà. Et du coup, ça peut formater sans qu'on s'en rende compte, en fait.
Oui, l'image de la femme soumise à l'homme.
Une image de la femme, etc. Une image de la sexualité qui est très restreinte. Ouais. Et voilà, après, je ne dis pas qu'il ne faut absolument pas lire, mais il faut peut-être avoir un certain recul.
Voilà, mais c'est important de lire, et même si tu dis qu'elle a pas, c'est le premier livre qu'elle rachète depuis...
Mais du coup, elle s'est remise.
Mais tu vois, c'est intéressant de voir ça, mais elle peut lire, l'apprécier, c'est juste... Camille Emmanuel, dans son truc, elle dit juste « Ayez du recul ». Vous pouvez kiffer l'histoire et vous sentir à l'aise dedans, aimer l'héroïne et l'histoire et rêver un peu. Juste, ne pensez pas que la vie, c'est ça. Et que chaque nana est destinée à un milliardaire qui vont vivre heureux, machin, qui va lui payer des loup-boutins dès le deuxième jour, tu vois. Et que vous allez avoir une sexualité où vous êtes une étoile de mer, quoi. C'est juste ça. Prenez du recul sur vos lectures.
Ouais, donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment passionnant, intéressant. J'espère, enfin, ça coûte pas très cher. En plus, c'est 13,90€. C'est un petit texte vraiment drôle et qu'il faut lire. Et donc, j'ai contacté l'auteur parce que là, donc, elle critique cette littérature, mais pour lui demander en fait son top 3 à elle en matière de littérature érotique. Ouais. Donc, elle m'a répondu. Donc, son premier, c'est Vénus Erotica d'Anaïs Nin, dont je vais parler tout à l'heure. Le deuxième, Sex in America de Marilyn J. Lewis. Et en troisième position, toute la collection BDQ des requins marteaux. Ah. Voilà. Dont on va parler aussi.
Allez, ben on va en parler maintenant, tiens, de cette collection. Redis-nous le.
Donc,
l'auteur.
Camille Emmanuel, Lettre à celle qui lit mes romances érotiques et qui devrait arrêter tout de suite, aux éditions Les Échappées.
D'accord, donc auteur française. Hein.
Oui.
Ok, allez, les requins marteaux. On y arrive. Je vous laisse faire tourner cette BD avec une pochette qui est en 3D. Donc, tu peux fermer les yeux, passer le doigt dessus et tu dois deviner qu'est-ce qu'on retrouve en 3D. Pauline, sur cette BD. Beat Fighter, Olivier Texier, dans la collection BDQ des requins marteaux, cher à notre amie Héloïse.
Tu l'écris comment, Beat Fighter?
C'est le B-I-T-E, comme une beat, et Fighter, comme en anglais, le combattant.
Mm-hmm. Et c'est une collection, c'est un vrai exercice de style, en fait, pour plein de jeunes auteurs de BD. C'est-à-dire, on leur dit, voilà, tu as tant de pages et tu fais ce que tu veux sur le thème de l'érotisme et du cul. Et voilà, et ça donne des choses totalement différentes. Et chaque tome, on peut en apprécier plus ou moins, mais chaque tome est assez drôle et différent et intrigant. Voilà.
Voilà, et justement, Olivier Texier, qui est nantais, qui est un jeune auteur qui a eu à dessiner un certain nombre de pages, je crois 240 ou quelque chose comme ça, c'est exactement ça, avec son style particulier dont je vais parler après. je n'ai que deux mots à dire, quelle horreur, Héloïse. Quelle horreur, c'est tout simplement atroce, atrocement drôle, atrocement vulgaire, atrocement écœurant. Et pour faire une onomatopée, C'est une histoire... alors, il ne s'agit pas d'érotisme, mais plutôt de pornographie dans ce livre. Hein. C'est une BDQ plutôt pornographie. C'est une histoire de catch gay apocalyptique, alors où les femmes sont totalement absentes dans un monde qui a suivi la guerre d'Irak et où il ne reste rien, sinon des bâtiments en ruine et des catcheurs qui tiennent 8 arènes. Donc, 8 chefs à abattre sous la coupe du méga chef qui n'est autre que Masked Warrior, donc un combattant masqué. C'est donc l'histoire de Kato qui va se rendre dans la première arène pour son premier combat et qui va avant rejoindre ses amis, ex aussi, Tai et Buzz, anciens combattants devenus permaculteurs, car oui, après la guerre, il n'y a plus vraiment de ressources pour qu'ils accompagnent dans ce premier combat Kato qui a absolument besoin d'eux. Mais Tai a raccroché, il ne peut plus voir une autre goutte de sang versée, surtout celle d'un ami, un ex, mais Buzz décide de l'accompagner pour ce premier combat qui, en fait, un combat truqué où la foule s'abat sur Kato qui venait de défier le premier chef, l'exécutionneur. Et Masked Warrior, donc le méga chef, j'espère que vous me suivez jusque-là, qui est également présent, profite pour kidnapper Buzz. Et quand Kato arrive à s'enfuir et à retrouver Tai, Tai décide de reprendre les gants pour libérer son amour. Voilà, donc c'est du méga second degré, évidemment. Les requins marteaux, on les connaît, donc... bref, tout cela sous fond de... alors, je sais pas si je peux trop le dire, mais bref, de moments agréables entre potes. voilà, j'avais détaillé, mais je ne vais pas détailler ici. Ça me met mal à l'aise.
C'est des pratiques sexuelles un peu extrêmes.
Ouais. Voilà, extrêmes. Donc, c'est une BD dessinée par Olivier Texier, dessinateur nantais, amoureux des jeux vidéo. Donc, on retrouve d'ailleurs dans un graphisme en noir et blanc tout l'univers des jeux vidéo des années 90, comme Street Fighter, d'où le nom Beat Fighter. Voilà. Que dire de plus?
C'est drôle, tu as rigolé finalement ou
pas? Oui, j'ai rigolé, mais ça
t'a gêné.
Ça m'a mis mal à l'aise quand même. Il y a certaines pages un peu. C'est gore quoi, c'est vraiment gore
oui.
quoi.
Après, il y en a d'autres, tu vois, par exemple, I Love Alice, c'est dans la collection BDQ, ça se passe dans une équipe féminine de rugby. Et voilà, c'est des scènes érotiques entre filles. Après, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus drôles. Effectivement. Alors, je sais pas, peut-être que
Valérie est un peu circonspect en lisant. Je t'avouerai que alors, le deuxième livre que je présenterai tout à l'heure, c'est Trésor érotique japonais du musée Guimet. Et quand tu passes à ça après, mais c'est d'un repos, c'est d'un calme. Ah, c'est d'un bonheur.
J'ai rarement vu autant de phallus de ma vie qu'en feuilletant ce livre.
Et oui, et c'est ça.
Non, donc, ça a l'air
alors, par contre, ce qui est assez drôle, donc la pochette, on voit les trois Tai, Buzz et Kato avec un sexe en 3D, donc dessin, graphisme, un peu jeu vidéo. Ce qui est drôle, c'est que je me suis bien amusé avec ce livre à l'amener à Nico dès qu'il y a quelqu'un qui était dans son bureau pour le travail, pour lui disant j'ai pas vraiment aimé, je te le rends, mais bon. Donc ça, je l'ai fait pendant une semaine et c'était assez drôle, quoi, ce comique de répétition.
Après, il y a des fausses publicités aussi au début, à la fin, des fausses citations. Il y a plein de petites choses aussi.
Je vais nous lire la citation de Neil
Vas-y,
Armstrong.
Valérie.
Bon, je cite. Deux points, ouvrez les guillemets. Maman, coupe la radio. Lèche-moi ces deux grosses météorites avant que je t'explose la lune avec ma fusée Apollo.
Signé
c'est
de
beau.
Neil Armstrong, extrait de ses mémoires, coincé à deux dans une capsule à 384 400 km de la Terre.
Voilà, donc voilà, et c'est une. Qu'est-ce qui a marqué?
Pastis 69, pour ceux qui aiment avoir le nez dans l'anis.
Non, pas dans l'anis.
C'est ce qui est marqué dans l'anis.
Dans l'anis,
bah, ah, bien sûr.
Pardon. Voilà, donc à conseiller pour les gens qui comprendraient cette chronique.
Il est pégute, ton livre.
Ah ben c'est Nico. Ah ben c'est Nico.
C'est
hein.
La faute à Nico.
Écoute, hein. On le salue d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une pause musicale maintenant. Deux livres ou un livre à présenter?
Un seul.
Bon allez, pause musicale. On va écouter quoi, chère amie Héloïse?
Une chanson très imagée et très poétique des années 50. Tenez-vous bien, de Colette Renaud.
Colette Renaud ou Renard, je ne sais
Renard,
pas.
Ouais,
je
peut-être.
Ne vois plus. La pochette m'a.
On va l'appeler Colette.
Allez, Coco.
Que c'est bon d'être demoiselle, car le soir dans mon petit lit, quand l'étoile Vénus étincelle. Quand doucement tombe la nuit,
Je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot, je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin, je me fais laminer les crevisses, je me fais foyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le montvelu. Je me fais briquer le casse-noisette, je me fais mamourer le bibelot, je me fais sabrer la sucette, je me fais reluire le berlingot, je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison, je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson, je me fais chevaucher la chaussette, je me fais chatouiller le bijou, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres. Le jour, je baise, tout simplement.
Allez, on est revenu.
C'était donc Colette Renard.
Voilà, c'était Renard. Très belle chanson. Très belle écriture. Ouais, vraiment. Helga, à toi l'honneur.
Alors,
je remonte le niveau de cette émission, s'il te plaît.
Ben, en fait, mon livre, moi, je le classe pas en érotique. Donc, je sais pas si je vais remonter le niveau, mais voilà.
Ça peut pas être pire.
J'ai une lourde responsabilité sur mes épaules, là. Tu le sens quand même. Alors, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle « Les hommes salmonelles sur la planète porno » de Yasutaka Tsutsui.
Japon,
tout à fait. Et ce type-là, en fait, il a écrit une nouvelle qui s'appelle « La traversée du temps » et qui a été adaptée en dessin animé japonais par... alors, je crois que c'est Mamoru Hosoda.
Je crois que c'est lui. C'est ça.
Je crois que c'est Hosoda. Hein. Je ne suis pas sûre.
Colin, surnomme Orangina. Au soda.
Oh, non, tu sors. Enfin, voilà. Non, mais la traversée du temps, c'était une histoire très poétique. Et là, moi, j'ai pas trop reconnu l'histoire de la traversée du temps. Mais bon. Donc, on va suivre une expédition qui se passe, je suppose, dans le futur assez lointain quand même, sur la planète Nakamura, qui a été surnommée la planète porno. Il s'agit de scientifiques japonais qui sont là pour faire des recherches sur la faune et la flore locale. Et en fait, l'histoire débute quand le docteur Shimazaki tombe enceinte, mais d'une plante gymnosperme. Donc, elle a été engrossée par une plante faisait des récoltes pour ses recherches. Donc là, on se dit, waouh, là, ça part pas mal. Et le problème, c'est que l'accouchement va arriver dans une semaine, quoi. Donc, elle tombe enceinte, bim, elle accouche dans une semaine. Donc, il faut aller vite, il faut vite trouver un autre docteur qui va l'aider à accoucher ou bien à retirer le bébé.
Quelqu'un peut me passer des psychotropes pour m'aider à suivre la fin de la chronique ?
Oh, fais un effort, Valérie.
Et donc, cet autre docteur qui va l'aider, j'ai oublié son nom, en plus, les noms japonais, c'est pas mon truc.
Bon, on n'a qu'à inviter, on n'a qu'à inventer. Valérie, invente.
Tsao.
D'accord, donc le docteur Tsao est avec les Nunubiens, le peuple local qui aime bien vivre tout nu et qui sont télépathes. Ah, les infos qu'on a.
Ouais.
Et donc, trois scientifiques vont le chercher. Et en fait, ça va être cette histoire de... On part avec notre bateau à réacteur ou je sais pas quoi, et on doit traverser la rivière, puis on doit traverser la jungle dans une ambiance en fait, qui paraît très dangereuse et vicieuse. Leur mot préféré, c'est ça.
Oui,
tout est vicieux.
Elle s'est fait mettre enceinte par une plante, donc du coup, sans s'en apercevoir.
Sans s'en apercevoir.
Oui, non, mais c'est...
D'un coup,
oui.
D'un seul bim.
Je l'ai toujours dit, se méfier des plantes.
Ah oui. Ah oui.
Surtout quand t'es nu.
Mais c'est ça, en plus, il y a une scène comme ça où ils sont dans l'eau et des algues farfouilleuses lui retirent son pantalon et son slip. Et boum, un orgasme. Bim. Alors, je vous laisse deviner ce qui s'est passé.
C'est un orgasme, ça va. Même, alors.
C'est un peu érotique, mais en fait, c'est très léger.
Ça a l'air drôle.
Et, c'est drôle, mais après, tu as toute une partie en fait, sur la science, sur la théorie de l'évolution, sur la théorie de la dégénérescence.
Aïe.
Donc, en fait, c'est très scientifique. Tu as deux, trois trucs un peu porno de temps en temps et rigolo, du coup. Où il te parle d'une faune et d'une flore, où tu te dis waouh.
Mais c'est scientifique sérieux ou scientifique imagé, utopique?
Alors, j'ai un niveau en science qui.
Comme tout le monde ici, je crois. À part Pauline,
je ne
très
peux
fort,
pas
ça.
Dire. Mais après, à la fin du livre, il dit qu'il a cité des auteurs et qui. Enfin, voilà, ça a l'air quand même un peu sérieux et qu'il sait. Il s'est intéressé à des choses qui ont déjà existé, apparemment. Mm. Mais personnellement, je pourrais pas dire.
Ouais, après tes auteurs qui enfin les auteurs qui citent c'est Kawasaki, c'est Chimutai, on les connaît pas,
non,
quoi. On sait pas s'ils en existaient.
Alors, je me suis permis de citer ou de faire référence aux écrits des auteurs suivants. Toshitaka Hidaka, voilà. Akira Miyazawi, Yasushi
aussi bien
Kugihara,
c'est des acteurs porno.
Kenzaburo Oe, ça c'est bon, on sait qui c'est. Conrad Lorenz et Edmond Hamilton, ça, je crois que ce sont
c'est
des scientifiques.
C'est qui Kenzaburo Abue?
C'est un auteur japonais qui a eu le prix Nobel, non, je crois.
Je crois
qu'il a eu le prix Nobel, oui. Mm. Donc voilà. Donc je pense que les derniers, tu vois, Conrad Lorenz et Edmond Hamilton, apparemment, ce sont des scientifiques.
Je les connais.
Mais donc ça serait de la science-fiction, scientifique,
érotique. C'est une science-fiction, et j'ai lu sur Internet qu'ils appelaient ça de la hard science. Mais j'ai pas trouvé de définition assez claire, en fait. Donc apparemment, c'est un truc qui se passe dans le futur, où tu utilises toutes les théories qu'il a pu exister. Et tu les mets à mal. Donc là, c'est la théorie de l'évolution et tu as toute une partie sur... en fait, c'est l'homme, la chose la moins développée. Mmh. Et la planète Nakamura, la planète porno, elle a donné lieu à toute une foule d'animaux, de plantes et même d'humains, ou en tout cas ce qui ressemble à des êtres humains, qui sont énormément développés par rapport à l'homme.
Ok.
Les fameux Namibiens.
Et de temps en temps, tu as des algues farfouilleuses.
Ton ressenti sur ce livre, parce qu'on n'arrive pas à savoir si t'as aimé, si t'as pas aimé. C'est pas ta tasse.
Alors, autant l'aspect un peu rigolo, on part en expédition parce qu'elle est tombée enceinte, parce qu'elle s'est fait engrosser par une plante. Au début, ça te.
Le synopsis de base est assez drôle,
Et après, en fait, quand tu passes sur le scientifique, moi qui n'y comprends rien, j'étais un
peu. Lourd.
Ouais, c'était lourd.
Alors que t'aurais pu lire Before.
Là, j'aurais kiffé.
C'est court comme livre ou c'est que les pages sont très fines?
C'est très court, il fait 100 pages.
D'accord.
Voilà.
Okay. Ok, merci, on s'arrête là alors. On est déjà en retard. On a des super livres à lire. Je vous laisse choisir, mesdemoiselles, qui veut prendre la suite.
Y en a deux qui ont la bouche pleine et une qui a trop envie de parler de son livre.
Ah bon? Allez. Ouais. Allez, popo. Allons-y, alors. On n'a pas fait le jingle.
Alors, moi, je vais vous parler de À l'ombre des pêchers en fleurs, qui est un roman libre chinois du 17e. Alors, roman libre, c'est pareil, moi, j'ai cherché sur Internet, je pensais aller trouver direct, mais rien du tout.
Qu'est-ce qu'il y a comme différents types de romans dans l'érotisme?
Il y a beaucoup de styles.
Il y a beaucoup de styles.
C'est vrai que là, on passe de la science-fiction au roman libertin japonais.
Oui, ça doit avoir ce côté libertin. Ouais.
Oui.
Et donc, c'est une production qui arrive, qui commence au 14e.
Une production qui arrive.
Au 14e et qui fait qu'augmenter jusqu'au 18e. Bref. Voilà, mon roman, il est de Zhu Zhen.
Cool.
Et alors il le dit clairement lui-même, il a écrit une dizaine de jours de pluie. C'est déjà très joli, moi j'aime bien.
C'est très beau.
Et donc c'est l'histoire de Wei Yuping, que j'ai appelé Wei Yuping tout le roman jusqu'à ce que je me rende compte que c'était un cul et non un P. Qui a été élevé dans une famille aisée, donc c'est un lettré. Et en fait, toute la vie à cette époque des personnes aisées et éduquées, c'était de passer des examens de carrière qui les faisaient monter dans l'administration chinoise. Et donc, notre Yuking passe ses examens et du coup, il est amené à à beaucoup, beaucoup se déplacer très fréquemment, très loin, et à faire beaucoup de rencontres, notamment des femmes. Voilà. Donc, il va rencontrer des tas de femmes qui sont passionnées, qui l'aiment jusqu'à en mourir. Et alors, évidemment, il va les aimer, sincèrement, et surtout les satisfaire. Sans, voilà,
sincèrement aussi.
Voilà, très sincèrement.
Il est gentil.
Ah oui, il est très généreux de sa personne. C'est un homme merveilleux. Mais même au fond de son cœur, voilà, il ne va jamais les abandonner. C'est quelqu'un de bien. Personne n'est mauvais dans cette histoire. C'est très, très beau. Bon, alors, pour le coup, il y a c'est un vrai livre érotique. Hein. Il y a des scènes de sexe toutes les deux ou trois pages, hein, sans arrêt. Mais il y a aussi cette image un peu du monde chinois. Il y a de l'époque, l'image de la femme qui est un peu... voilà, la condition qui est assez fragile. Ce monde des examens qui est sur les dénonciations, tout ça. Donc, il y a cet aspect-là qui est assez intéressant. Et puis c'est très rigolo parce que donc il y a tout cet aspect érotique qui est présent et aussi beaucoup de poésie. Voilà, Yu Qing et les femmes avec qui il a des relations communiquent énormément en poésie, et donc c'est de jolis textes, donc il y a un très gros contraste entre les scènes de sexe qui sont clairement des scènes de sexe, alors avec les mots sont jolis, hein, on est ou imagé. Pas toujours joli.
Il y a beaucoup de métaphores.
Ouais. Et c'est rigolo. Alors, je ne sais pas si c'est l'auteur ou si c'est l'habitude de ces romans-là, mais alors il a certaines habitudes. Par exemple, à chaque relation, il nous donne le nombre exact de coups de rein. Voilà. Alors, cette fois-ci, il en met 1000, il en met 500. C'est vachement rigolo. Et puis là, ces petites expressions, il nous parle de la tête de tortue. Ou mon préféré, le manche de chasse-mouche, que je trouve excellent.
Valérie est outrée. Tu peux lui dire n'importe quoi, mais alors ne parle pas
de manche de chasse-mouche.
Ah non, ouais. Jamais.
Ça réveille en moi des choses.
C'est hyper imagé.
C'est quoi en fait?
Tu vois pas là, le geste de chasser les mouches? Je te ferai lire, tu comprendras. Donc finalement, bon, c'est pas le but de ce bouquin-là, c'est pas de stimuler. Hein. Moi, ça m'a fait sourire parce que c'est plein d'expressions, plein d'attitudes qui sont rigolotes. Et puis j'ai même trouvé ça assez moderne dans l'écriture. Alors ça, c'est peut-être dû à la traduction, je sais pas.
Parce que ça a été écrit quand, tu dis?
Au 17e.
Ah oui, quand
ouais.
même.
C'est assez vieux quand même.
Ouais, ouais. Et c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans nos vieux romans, vieux français, des expressions complètement démodées. Alors après, il y a le côté traduction qui peut jouer aussi là-dessus. Mais j'ai pas du tout l'impression de lire un vieux bouquin.
Et t'avais déjà lu de la littérature chinoise ou pas?
Chinoise, jamais, non.
Et japonaise?
Japonaise, un petit peu.
Tu vois, c'est un
très peu, mais...
Asiatique, ça fait un peu ça.
Ouais.
Ça n'a pas cette poussière que nous, on trouve
oui,
à la littérature française.
Oui, c'est pas vieillissant du tout.
C'est notre littérature classique.
Donc voilà, ça m'a fait beaucoup sourire parce que l'expression est drôle. C'est à lire pour découvrir un monde, une littérature érotique sympathique finalement, parce que les personnages sont sympathiques et parce que les scènes sont jamais choquantes et toujours...
Mais c'est positif en fait.
Oui,
c'est,
oui, oui.
C'est optimiste.
Ouais. Ouais.
Tu as trouvé ce que tu cherchais dans l'histoire aussi? Ça t'a tenu en haleine?
Non, l'histoire, c'est là pour faire vivre, en fait, pour faire bouger le personnage. Après, j'ai appris des choses, notamment ce truc des carrières, là, des examens pour avancer dans la carrière. C'était intéressant de voir ça.
Mais enfin, ça a changé depuis pour, 1700. je te rassure, Popo.
Mais je pense que c'est vraiment pour porter le personnage partout dans le monde, le faire voyager. C'est un peu, entre guillemets, une excuse, quoi.
Excellent. Oui. Bravo, Pauline. Qui a encore parmi nous de la littérature asiatique à présenter?
Ouais, moi,
tout le monde.
Oui.
Non.
Non, pas toi. Ah, ben dommage, t'as perdu.
On va en parler, Sanaïs.
Mais on va en parler, on va finir en beauté par ça. Il nous reste 11 minutes. Tiens, Valérie.
En 2 minutes.
Toi, en 2 minutes, moi aussi.
Ouais, ouais.
Moi aussi
non,
en 2
minutes.
Non,
mais il est super, mais en fait, moi, c'est Saikaku, l'homme qui ne vécut que pour aimer. Du coup, je ne vais pas prendre mes notes, ça fera plus court. En fait, Saikaku, c'est lui donc, qui raconte sa vie. C'est comme une autobiographie. C'est son histoire de cette. Je vais avoir besoin de mes notes.
77 ans.
77, je dirais. On pourrait faire une chanson avec ça,
bravo.
Ce serait chouette. Non, alors je sais plus. Oui, alors disons qu'on va dire que c'est de sa vie de 7 à 77 ans et chaque chapitre c'est une année de sa vie. Alors c'est peut-être pas 7, en plus je crois que c'est 3. Je dis des bêtises. Ça commence beaucoup plus tôt. Il y a une
allez, mathématiques, Helga. 7 à 77 ans, un chapitre par année. Ça fait combien de chapitres ?
C'est un livre super long. Ça commence bien à 7. C'est un livre super long et en fait, non mais compte pas, ça sert à rien.
Et du coup, ça commence quand il est petit ?
En fait, ça commence quand il est petit. À 7 ans, il découvre un peu la sexualité. Il faut savoir que son père, c'était un ancien directeur de mine d'or qui a tout plaqué pour ouvrir des lieux de lupanar. On est au Japon.
Quelle époque ?
16e, 17e, pardon.
Okay, bah pareil, hein.
Et c'était vraiment... voilà, il est né donc d'une... Il est le fils de son père et de sa mère, qui était une courtisane, voilà. Donc il est élevé dans ce milieu très... dans un lupanar, quoi. Il faut appeler un chat un chat. Et en fait, quand sur la préface qui fait une centaine de pages, quand tu as l'impression qu'il tourne un avertissement en te disant « Attention, voilà ce que vous avez à lire, c'est la littérature japonaise, c'est sa vie, page après page, il a quand même couché avec 3612 femmes et 200 et quelques garçons. »
3742 ouais. femmes et 725 garçons. Il est fort le type.
Ouais, ouais, ouais. Et bien ça peut faire peur quand on lit ça, quand il on lit la mytho, préface, hein. On se dit « Ça va être terrible. » Et en fait, page à page, 7 ans, bah, il découvre l'amour et c'est très, très, très poétique. C'est très beau. Il y a quelques passages qui vont décrire un acte sexuel, mais c'est pas du tout cru. Il n'y a pas de mots vulgaires. Et en fait, c'est vraiment sa vie, mais qui va tourner autour de l'amour. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une biographie, une autobiographie sur bah, j'ai fait ça tel été, j'ai ramassé les foins, et puis après j'ai été travailler, et tout ça, là, ça tourne autour de l'amour. Et c'est très, très beau. Alors, c'est un peu difficile à lire parce que c'est très saccadé, puisque c'est 7 ans, 8 ans, 9 ans, et ainsi jusqu'à la fin. Donc, ça fait un peu saccadé, mais chaque fois. Ça raconte pas une année de sa vie, ça raconte un passage, en fait, quand il revient dans un lieu, quand il retrouve quelqu'un qu'il avait déjà vu. Et chaque chapitre commence avec une petite citation, une petite expression, et il y a pas mal d'estampes dessinées aussi. Mm-hmm. Et les estampes sont beaucoup plus suggestives que le texte. Voilà, donc c'était une belle surprise, parce que la préface était tellement longue que je me suis dit, punaise, je vais pas y arriver. Je vais pas arriver au bout, c'était pénible
mais
à lire.
Mais tu as vaincu.
Tu aurais dû, la sauter, là.
Mais je l'ai sautée. Voilà, je
Louise,
me suis permis, c'était dans le thème.
S'il te plaît.
Voilà. Donc après, j'ai
tu
lu.
Tu conseilles
ouais, parce que vraiment, c'est vraiment sympa, c'est pas cul, c'est beau, et après, le petit coup de gueule que j'ai, c'est qu'il n'y a pas une page où il n'y a pas une note d'auteur.
Oui, pas une...
Ah, moi, c'était pareil, c'est fatigant.
Ça, c'est piqué. C'est, ouais. C'est l'éditeur qui est c'est le spécialiste de la littérature asiatique en France. Et du coup, ils sont très notes d'auteur, de traducteur, de « on va montrer aux gens, on va expliquer ».
Donc ça, c'est l'éditeur. C'est bien traduit aussi.
Ah oui, par contre, voilà, on ressent, alors c'est vrai que peut-être Pauline elle me rejoindra, mais on est un peu bercé, nous, dans le Japon, avec l'art martial qu'on pratique.
Ah oui.
Et on rejoint...
Le kung-fu ? C'est le kung-fu, c'est ça ?
Le karaté. Mais c'est vrai que du coup, ça rejoint pas mal de choses, pas mal de préceptes que notre sensei, des fois, va nous enseigner. Et c'est pas sur le côté érotique, hein, mais sur le côté...
Déshabillez-vous. Ah, jamais, hein. Mettez votre kimono.
Sur le côté... Mais sur les cérémoniales du thé, sur plein de choses comme ça. Et donc, c'est vraiment sympa et je vais pas le rendre à Héloïse.
C'est sympatoche.
C'est sympathique, hein.
Allez, super, tu as pris 4 minutes au lieu des 2, donc excuse-moi. Je vais prendre 1 minute au lieu des 3. Et oui, tu as perdu, Louise, il fallait avoir un livre asiatique. Ça va aller très très vite, Trésor érotique japonais du musée Guimet aux éditions de la Martinière. Ce sont une collection, une maison d'édition qui propose des balades iconographiques au sein des prestigieuses collections des plus grands musées et institutions du monde. En l'occurrence, ce livre, c'est les 100 œuvres incontournables, donc des estampes, des photographies, des miniatures, des... comment on appelle ça, les petites sculptures des Netsuk du Japon, des arts, du Musée National des Arts Asiatiques, qui part du 18e au 19e siècle. Voilà, donc,
un
livre d'images, une page, une explication. Yoko Shomash Sashin, quatre femmes faisant leur toilette, 1890, épreuve à l'albumine sur papier colorié, etc. Donc c'est un livre d'art. Voilà, qui est quelquefois érotique
à
des moments,
en tout cas, hein.
Qui est très beau. Bon,
oui,
après,
il est tout petit,
qui est tout petit. Après, des fois, ça part en un peu plus.
C'est le Japon.
Un peu plus explicite. Mmh. Et après, il y a de très, très belles. Comment dire, estampes, parce qu'on parle d'estampes au Japon, qui sont même au-delà, c'est même pas de l'érotisme, c'est du charme, c'est de la poésie.
De la sensualité, du subjectif,
c'est très beau, c'est à conseiller en livre d'art.
Oui, c'est une grande tradition érotique au Japon, c'est vrai.
C'est ça, avec les geishas et tout ça. D'ailleurs, qu'est-ce que tu nous as dit en arrivant? Valérie. Bon, Louise,
ton livre, il faut absolument que tu en parles.
Oui. Non, je vais vous parler de Vénus Erotica, un recueil de nouvelles d'Anaïs Nin. Est-ce que vous connaissez ce nom-là? Est-ce que ça vous dit quelque chose?
On en a entendu parler au début de l'émission, par toi.
Oui. Mais sinon, non.
En chanson, j'ai entendu ce nom déjà.
En fait, c'est une... D'accord. C'est chez qui?
Je ne sais pas.
D'accord.
J'ai un petit flash comme ça. Mais donc, c'est peut-être le vin.
Oui.
Qui me fait dire ça.
Anaïs Nin, c'est une des premières femmes à écrire des romans érotiques. Elle est américaine d'origine franco-cubaine. Elle a vécu une grande partie de sa vie en France, en banlieue parisienne. Elle est connue surtout pour ses journaux intimes qui ont été publiés après sa mort, parce que c'était assez choquant en fait pour l'époque. Elle est née en 1903. Et donc, elle a tenu ses journaux toute sa vie. Elle fait état, en fait, dans ses journaux intimes de ses nombreuses relations, notamment avec Henri Miller. Je ne sais pas si c'est un nom qui vous parle.
Ah, oh, quand même.
Henri Miller, il avait écrit aussi Sexus, Nexus, Plexus.
Voilà, c'est un grand auteur de littérature érotique également.
Les Tropiques du Cancer, Tropiques du Capricorne.
Tout à fait.
Oui.
C'est un de mes auteurs préférés, Henri Miller.
Bah, très bien. Et donc, elle parle, en fait, de ses relations, donc notamment avec Henri Miller et la femme d'Henri Miller, June, avec Antonin Artaud, mais aussi avec son cher papa, parce qu'elle a eu une relation voulue avec son père, un inceste volontaire. Voilà. Donc, voilà, on arrive dans le truc, c'est un petit peu glauque.
Un peu plombé l'ambiance.
C'est un petit peu glauque aussi.
Déjà, Artaud,
dit,
Pauline, Artaud, je suis ton père.
Et puis son père, oui.
Non, mais enfin, voilà, vous l'avez compris, des fois il y a un côté un petit peu glauque chez Anaïs.
Mais c'est véridique.
Ah oui, c'est vrai, c'est ses journaux, donc ça fait état de sa vie.
C'est quelle époque, pardon?
Elle est née en 1903 et elle est morte en 1977.
D'accord, c'est quand même une autre époque.
Oui,
pas non plus, super non, mais...
Bah, oui, mais c'est.
Il n'y avait pas de smartphone à l'époque. C'est une autre époque.
Oui, si, si le smartphone pour toi lance le début d'une ère. Oui.
Ah ben oui, avec l'internet, tout ça, oui, bien sûr. Ça a des conséquences sur les jeunes, sur le développement, etc. Pardon, Héloïse,
non,
vas-y.
Non, non, mais en tous les cas, je ne vais pas vous parler de... Je ne vais pas vous parler de ses journaux intimes. Je vais vous parler de son recueil de nouvelles qui s'appelle Vénus Erotica. C'est en fait quelque chose de 15 nouvelles qu'elle a écrites sur commande. C'est un mystérieux mécène commanditaire qui a demandé à Henri Miller d'écrire ses nouvelles, et Henri Miller, ça le saoulait, donc il a dit à Anaïs Nin, fais-le pour moi. C'était $1 la page, elle l'a fait, et le commanditaire demandait toujours moins de poésie et beaucoup plus de faits et d'actions, voilà, dans ces nouvelles-là. Donc on a 15 histoires très différentes, souvent centrées autour de la femme, de l'histoire sexuelle de la femme, de ses envies, de ses désirs, etc. C'est l'histoire de fantasmes, d'orgasmes extraordinaires, d'accomplissements et aussi d'amour. Donc elle s'amuse beaucoup à raconter toutes les sexualités possibles. C'est très divers et ça m'a étonnée pour l'époque qu'elle parle de choses aussi poussées en fait, dans la sexualité. Notamment voilà, un homme qui prend du plaisir exclusivement en se faisant regarder le sexe par une femme. Des partouzes sous opium, des histoires de pouvoir, de déguisement, aussi d'inceste. Ça, c'était le côté un peu plus glauque, d'inceste, de mutilation, d'hommes qui aiment des très jeunes femmes. Et voilà.
Donc on a failli faire une émission ouverte à tout le monde, sans parler. Et voilà.
Il faut parler de ce côté-là. À 13h29. Chez Anaïs Nin, je peux pas dire que c'est que tout rose, tout beau, etc. Moi, ça m'a un peu plombé, je vais vous le dire. Ça m'a vraiment plombée. À chaque fois, une histoire se commençait bien et ça se finissait sur quelque chose de très glauque et de très dérangeant. Voilà, donc c'est perturbant, effectivement. Bon, les personnages sont très aboutis, elles parlent de leur environnement, de leurs sentiments. Elles parlent beaucoup de sentiments et d'amour, ce qui est chouette aussi. Il y a une touche très, très sensible dans ces nouvelles. Donc voilà, des textes très poétiques, mais très crus aussi, sensuels. Et elle a réussi, je pense, un tour de force pour l'époque, et c'est vraiment à noter et à découvrir. Rien que pour l'acte historique, en fait, de cette femme qui a été la première à écrire ce genre de choses. Et elle a libéré une certaine parole. Je vais finir sur une citation d'Anaïs Nin, une citation de Vénus Erotica.
De Neil Armstrong.
qui dit « Seul le battement à l'unisson du sexe et du cœur peut créer l'extase ». Voilà.
Donc ça, c'est quand même très beau. Oui.
C'est un livre qui a été recommandé par Camille Emmanuel, c'est
oui,
ça
oui, tout à fait. C'est son livre préféré dont on a parlé, en littérature voilà. érotique.
Là, il n'y a pas de tableau Excel pour...
non, Anaïs. Non, pas du tout, certainement pas.
D'accord. Merci d'être resté à l'écoute de cette émission.
Je peux vous poser une question ?
Oui.
Parce que là, c'est les livres tout neufs.
12 000 coups de rein.
Je ne connaissais pas. 12 000 ?
Ah non, c'est pas ça.
J'avais compté un peu plus. Non, je voulais savoir quel est pour vous, cher chroniqueur, le livre érotique par définition, Pauline ?
Un titre ?
Ouais, celui qui t'a le plus.
Mais je crois que je n'en avais jamais lu avant.
Non, mais ta mère a coupé là, c'est bon, tu peux.
J'ai lu ado le journal de Laura Palmer, là, un personnage de Twin Peaks, où là, il y a vraiment des choses violentes. Je crois que c'est celui qui m'a le plus marqué, mmh. peut-être. Mais c'est pas un livre érotique, c'est pas le but. Mais il y a des scènes, ouais, qui m'ont marqué.
Ludo ?
Moi, je suis un peu comme Pauline, je lis pas de ce genre de livre. Peut-être Madame Bovary ou Le Rouge et le Noir. Non, mais c'est vrai, pour moi, ça l'était à l'époque.
Ouais. Pour moi, ça sera Comtesse, collection BDQ des requins marteaux, auteur Haute Picot.
Et Beat Fighter aussi.
Et moi, j'adore Histoire d'eau de Pauline Réage.
D'accord.
Et toi,
très classique, moi, j'en ai jamais lu.
Allez, Valérie.
Non, moi, c'est...
La meuf demande, mais...
Je ne l'ai pas lu, mais je l'ai écouté. C'était Héloïse et Abélard. Héloïse, oui.
Ah oui.
Ouais, mais Telé aussi, ça, c'est bah, cool, grave. Quoi. Mais...
Moi, je l'avais écouté en CD dans la voiture et je me suis rendu compte, quand j'étais arrêtée à un feu rouge, que j'avais la vitre ouverte, que des gens écoutaient
« Oh,
hurte bise moi !»
Sur la rue Théophile Roussel de Saint-Chély-d'Apcher.
C'est ça, voilà. C'est ça. Ouais. Je l'avais déjà raconté.
Ok, là, dans deux semaines,
oui.
Que se passe-t-il ?
Parce qu'est-ce qui se passe ?
On a déjà commencé à lire les livres.
Ouais, c'est oui. chouette. Hein.
C'est quoi ? C'est
le terroir, non ?
C'est le terroir.
Les livres qui parlent de terroir.
Gastronomie.
Moi, j'ai gastronomie non. terroir, là, pour l'instant.
Non, c'est terroir, vraiment terroir.
Ah, vraiment terroir.
Ah, c'est pas bouffe.
Parce que moi, ça parle de bouffe
mais
jusqu'à
ça,
présent.
Oui, moi aussi, c'est pas.
Et
on a même le thème dans deux émissions ou pas ?
Oui, mais je ne sais plus.
C'est les auteurs des îles.
Oui, c'est
ah,
ça,
c'est
merci.
Ça.
Les voilà. trottiques, les auteurs des îles, merci.
D'accord, merci. Comme ça, ça me fait, ouais. ça me permet de me rappeler parce que j'ai tout le livre et je ne sais plus quelle émission.
Voilà.
Ok, c'était super intéressant ouais. cette émission. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve donc dans deux semaines. Merci les filles.
À bientôt.
Pardon, papa. Bye bye.
Au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein dans la rue, il y a plein les commissariats, plein les directionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire. Là.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.